Salut à tous, bienvenue à Coup Critique. Je m'appelle Francis, je suis avec Pierre-Philippe. Merci beaucoup d'être là encore cette semaine pour l'épisode 18 de Coup Critique. Mine de rien, ça va super bien. Merci beaucoup encore de votre réponse, de tout le monde qui a commenté puis qui partage. Puis mine de rien, la page Facebook augmente puis on a de plus en plus de suggestions puis d'interactions. On vous trouve vraiment cool, la gang. Pour vrai, c'est vraiment le fun de faire ça avec vous autres. Pierre-Philippe, comment tu vas, toi?
Ça va bien, toi, Francis? Comment ça va?
Ah, ça va bien. Je trippe. J'ai juste le goût de jouer encore plus, puis de rencontrer, puis de discuter avec plein d'autres mondes sur le jeu de rôle. C'est vraiment nice.
Ben, moi aussi, j'étais heureux pour de vrai à mesure que je vois les gens s'abonner à la page, à mesure que je suis juste comme... On dirait que c'est juste plus stimulant qu'autre chose.
Oui. Puis, on rappelle, au moment où vous allez écouter cet épisode-là, le concours pour gagner le Hyman's Dice Bag est toujours en vigueur. Donc, vous allez sur notre page Facebook, vous pouvez commenter, vous suivez les petites étapes du concours, puis vous pouvez gagner un gros sac Hyman's Dice Bag qui peut rentrer 150 B. Il y a deux sacs à faire tirer. Merci à Karking Pro de nous avoir offert la chance de vous offrir ça à vous, notre communauté. Merci beaucoup. Sinon, il y a encore le sondage qui est encore en ligne que vous pouvez aller répondre. On a besoin de vos commentaires pour pouvoir savoir quoi vous offrir pour vous rendre heureux. Parce qu'il y en a du stock sur Internet. Hein? Il y en a du stock. Puis justement, en parlant d'Internet, on parlait, moi et Pierre-Philippe, de qu'est-ce qui se passe un peu, comment on organise nos parties comme DM. Puis ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, c'est de faire une espèce de boîte à outils, d'outils de DM qui sont disponibles sur le web. Donc, moi, j'ai mes outils préférés que j'aime utiliser. Pierre-Philippe en a trouvé des siens, en fait, qui trouve qui sont les meilleurs pour lui, puis des suggestions aussi qu'il a trouvées. Puis, dans le fond, ce qu'on va essayer de vous proposer, c'est plein d'outils qui vont peut-être vous aider à organiser vos parties, vous simplifier la tâche, vous donner peut-être une longueur d'avance ou vous faire sauver du temps. Bref, vous prenez ça, vous en faites ce que vous voulez. Puis, n'hésitez pas, dans les commentaires de cet épisode-là, si on n'a pas parlé de quelque chose, parlez-nous-en. Pour pire, on fera un autre kit d'outils. Puis on reprendra vos idées pour les découvrir avec vous. Ça va être vraiment cool. Je vais commencer avec un outil que je pense que beaucoup de monde connaissent, qui s'appelle D&D Beyond. Bon, donc si vous n'êtes pas au courant, D&D Beyond, ce que c'est une plateforme web qui appartient à la compagnie Fandom. Ils travaillent directement en association avec Wizards of the Coast. Donc, les ressources que vous retrouvez sur D&D Beyond sont approuvées. C'est les vraies sources. Il y a une collaboration très étroite avec Dungeons & Dragons. Et ce que c'est, en fait, l'objectif primal de ce site-là, c'est d'offrir une manière de regrouper vos ressources que vous achetez digitales par le site, puis de vous permettre de créer des personnages que vous garderez en banque. Vous pouvez utiliser sur tablette, sur téléphone mobile maintenant, sur votre ordinateur. Vous pouvez même l'utiliser dans des plateformes de jeux en ligne aussi. C'est vraiment fun. Pour les DM, par exemple, ça a pris un peu de temps. Puis finalement, dans la dernière année, on a vu beaucoup d'outils orientés vers les DM pour leur permettre de faciliter certains processus de partie. La première chose, c'est le Encounter Builder qui est sorti cette année. Ce que c'est, en fait, c'est que ça vous permet, à travers toutes vos ressources que vous avez achetées sur D&D Beyond et aussi avec les règles de base, ça vous permet de créer des combats ou des situations de encounter, comme on appelle, avec des ennemis, mais surtout d'être en mesure d'en créer facilement avec du drag and drop, puis de voir, tout dépendant du niveau de vos personnages joueurs, de respecter ou de les challenger sur la difficulté de votre encounter, de votre combat. Fait que ça, c'est vraiment cool. Moi, je l'utilise souvent juste pour voir, OK, mes joueurs, là, comme moi, dans une des quêtes que je faisais, j'avais fait avancer un peu trop vite mes joueurs. J'avais donné un peu plus de niveau. Puis là, je me demandais comment je fais pour rebalancer le tout. Ça a été vraiment utile de voir, OK, bien, je peux ajouter telle chose, je pourrais en mettre un peu plus spécial. Là, je pourrais faire... C'était vraiment facile, puis c'est vraiment très bien construit. Autre chose qui est un peu joint avec le Encounter Builder maintenant, c'est qu'il y a en période alpha en ce moment, le Initiative Tracker. Fait que c'est carrément, ça vous sert à suivre l'initiative de votre partie avec les encounters que vous aurez construits. Fait que tout est déjà là. Vous avez, Puis si vous avez créé des campagnes avec des joueurs dans D&D Beyond, vous pouvez mettre ces joueurs-là dans cet Initiative Tracker-là, puis tout est automatisé. Vous pouvez calculer les points de vie manquants. Vous avez accès à toutes les attaques de vos monstres. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment cool. Puis moi, la ressource comme DM que j'utilise le plus de D&D Beyond, c'est que j'ai beaucoup de livres que j'ai achetés sur la plateforme. Puis j'utilise ce qu'on appelle le content sharing. C'est ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une campagne. Je vais demander à mes joueurs de se créer un personnage, mais ils vont avoir accès à toutes les ressources que j'ai achetées ou les ressources que j'aurais décidé de leur donner. Comme par exemple, si j'ai acheté Curse of Strahd sur D&D Beyond, je ne suis pas obligé de leur donner accès à Curse of Strahd, mais je peux leur donner accès au Player's Handbook, au Dungeon Master Guide pour ce qui est de la création des personnages. Par exemple, Volos, Xalators, tout ce qui est disponible en ce moment dans D&D 5e édition. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Puis déjà, ça allège un peu le fardeau de fouiller à travers des livres. C'est plus facile de faire des combinaisons pour les joueurs. Puis j'ai trouvé aussi que c'était souvent très facile et très intuitif pour les nouveaux joueurs de se créer un nouveau personnage puis de voir les étapes une à une. Pour vrai, c'est vraiment cool. Je ne sais pas si tu es un utilisateur de D&D Beyond, toi, Pierre.
Hey, je t'avouerais que pas tant. Je le découvre un petit peu par petit peu parce que justement, je n'ai pas vraiment acheté de stock dessus. Déjà, je trouve ça très bien qu'on peut avoir accès à une partie du stock gratuit. Et ce que tu viens de mentionner, en fait, je ne le savais pas que tu pouvais, dans le fond, acheter un stock, un package, exemple, puis en donner une partie à tes joueurs. Tout ça, je trouve ça très cool. Ça fait en sorte que les gens peuvent se mettre en teamwork pour s'acheter un livre pour une campagne, puis se splitter à gang au pire le prix si jamais ils trouvent que ça revient trop cher. Après ça, ben justement, de partager l'information qui est disponible. Tout récemment, j'ai fait comme mon premier personnage sur D&D Beyond. Puis pour vrai, j'ai trouvé ça super intuitif. Ça se faisait comme d'un claquement de doigts. Puis je trouve que la plateforme est bien faite. Il y a beaucoup d'icônes, de symboles pour signifier des choses, que ce soit, exemple, une petite main avec un éclair ou whatever, n'importe quoi d'autre. Il y a vraiment beaucoup de stock pour signifier vers où tu dois t'en aller pour la création de ton personnage. Puis je trouve ça super bien fait. Pour vrai, je pense que c'est le genre de plateforme qui va, avec le temps, gagner de plus en plus en popularité. C'est sûr que dans mon cœur, ça va pas l'espèce de concret physique, là, sauf que dans une situation actuelle, d'exemple, admettons qu'il y aurait une pandémie là, mondiale, quelque chose du genre, là, je trouve que ça fait un très bon plan B pour animer une partie, là, pour de vrai. Là. Je ne l'ai pas fait en tant que DM, je vais peut-être le faire en tant que joueur prochainement, fait que j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler.
Oui, puis dans le fond, D&D Beyond te permet aussi d'exporter ton personnage en PDF et ensuite de l'imprimer. Et c'est carrément une fiche que tu t'aurais créée si tu étais seulement dans la version papier. Fait que déjà là, on ne perd pas pour les puristes. Il y a toujours moyen d'utiliser ce système-là, mais en même temps d'avoir tous les avantages que vous voulez dans une partie. Point à noter, par exemple, c'est pour utiliser certaines des fonctions que j'ai parlé. Vous devez avoir un abonnement à D&D Beyond. Je pense que ça tourne autour de 5 US par mois. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine si vous êtes comme moi, vous créez plein de personnages, vous gérez plein de campagnes, vous voulez avoir accès facilement à de l'information avec leur outil de recherche qui va chercher facilement dans toutes les sections du site. C'est vraiment cool pour ça. Fait que D&D Beyond, c'est pas un secret, ils font beaucoup de promos, ils sont beaucoup associés avec D&D Beyond. Petit fun fact, si vous achetez le Essentials Kit, la dernière boîte de D&D Beyond, vous avez 50% de rabais sur le Player's Handbook sur D&D Beyond. Il y a un code dedans que vous pouvez utiliser pour vous acheter le manuel de joueur. Fait que si vous êtes simplement un joueur qui veut utiliser la ressource de base pour jouer à D&D, ça peut être un moyen de sauver de l'argent aussi. Fait que c'est ça. Toi, Pierre-Philippe, toi, ton premier outil, ça va être quoi?
Mon premier outil... En fait, c'est assez... je vais être assez clair déjà en partant que mes outils, en gros, que je vais partager, c'est pas tant des outils qui servent exclusivement à jouer en ligne, dans le sens que je suis pas nécessairement très outillé. Je suis pas nécessairement très outillé pour pouvoir faire des parties en ligne. Fait que les ressources que j'ai, c'est surtout des ressources qui peuvent aussi être utiles dans une partie autour d'une table, mais à partir d'un ordinateur. Moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup d'aimer avec mon portable devant moi. Puis au bon moment, je vais mettre une toune. Au bon moment, je vais aller sur tel site Internet. Bref, j'ai toujours comme mes onglets de site ouvert, justement, qui sont des bonnes références pour qu'est-ce que je veux. Et le premier, dans le fond, que je veux, que je veux présenter, ça, c'est comme mon croûte incontournable que j'utilise depuis des années déjà et qui ne fait que s'améliorer avec le temps. Et c'est Tabletop Audio.
OK.
Est-ce que tu connais Tabletop
ouais,
Audio?
Ben oui, c'est, oui.
Oui, ça m'aurait surpris que le contraire. Tabletop Audio étant, dans le fond, un site d'ambiance sonore, de musique également, qui sont très spécifiques, qui va de très large à genre...
Très précis.
Ah oui, c'est ça, de très large à genre la nuit, à très précis, genre... Je suis sur Internet, j'essaie de trouver le truc le plus précis que je peux trouver, rapido presto, l'intérieur d'une tarasque. C'est précis de même. Fait que, pour vrai, 1940 Boardwalk, je trouve ça full cool. Tu sais, vraiment comme, c'est vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur play, puis là, souvent, c'est soit ambiance musique ou des fois, c'est ambiance plus musique. Et il y a vraiment de tout pour tout. Ça va du fantasy à l'horreur, à la science-fiction, au moderne, bien normal. Je trouve pas ça trop ambiant. C'est super bien balancé côté musique et ambiance. C'est possible de se faire, dans le fond, une série, une liste de musique qui va jouer une après l'autre. Et il y a quelques années, ils ont commencé à sortir un nouvel outil sur le site Internet qui est, selon moi, encore meilleur que ce que le site proposait à la base. C'est leur Soundpad. Un Soundpad, dans le fond, où est-ce que vous choisissez parmi une liste de thématiques, comme par exemple la taverne, la forêt sombre, le vaisseau extraterrestre, par exemple. Et lorsque vous cliquez, dans le fond, sur la thématique que vous cherchez, vous avez une série, dans le fond, de sons courts que vous pouvez plugger rapidement comme ça dans une partie, seulement en cliquant, en fait, sur le bouton. Ça peut être soit une série de sons qui va se répéter, ça peut être seulement une fois. Comme par exemple, un que j'apprécie beaucoup pour mes games d'horreur, c'est... il s'appelle House on the Hill. Et okay. Là, dans le fond, encore une fois, il y a comme plein de petites icônes qui représentent, en fait, qu'est-ce que les joueurs peuvent choisir comme qu'est-ce que le DM peut choisir comme ambiance, que ce soit entendre des tonnerres de loin, que ce soit une fireplace à côté, une horloge qui va comme juste cloquer sans arrêt. Et bref, je trouve vraiment que c'est un très bel outil qui est très, très facile à prendre en main. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas nécessairement le gars le plus agile côté, justement, outils en ligne. Là. Tu sais, par exemple, Roll20, là, je suis un vrai poireau. Je n'ai aucune idée comment ça fonctionne. Puis j'essaie de comprendre tranquillement, pas vite. Là. Mais Tabletop Audio, c'est vraiment là, c'est très rapide à prendre en main. Vous passez 5 minutes dessus, puis vous savez à 100% comment ça fonctionne. Comme je dis, les soundpads très cool, puis c'est très différent de, vous en voulez du fantasy, vous en avoir, mais vous voulez genre une ambiance style, il y en a sorti un, je me rappelle, là, qui s'appelle Hell Planet, qui est genre comme une ambiance un peu à la Doom ou à la quasiment Avernus comme dans Donjon Dragon, où est-ce que ça va être des sons de moto avec genre des chainsaws puis des trucs dans le même, bref, super cool. C'est juste complet. Puis je trouve ça le fun qu'ils font dans d'autres choses que juste le fantasy.
Donc, ouais, c'est mon premier outil. Ouais, puis Tabletop Audio, si vous êtes assez habile dans vos recherches, vous pouvez même trouver des sections qui sont carrément consacrées à des modules de D&D.
Oui.
Des playlists qui sont faites, par exemple, sur juste Descent into Avernus, je crois, Waterdeep Dragon Eyes. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées autour de modules connus de D&D. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une intégration facile avec Roll20. Si, par exemple, vous êtes un joueur, il y a une façon de télécharger automatiquement des chansons de Tabletop Audio puis de les mettre dans vos parties. La mécanique, je l'ai testé un peu. Je ne suis pas un spécialiste, mais je me souviens qu'il y avait des belles possibilités à faire là pour certaines quêtes. Ça va vous donner une belle étendue d'ambiance. D'ailleurs, tu parles d'audio. Moi, mon prochain outil, ce n'est un aussi d'audio.
Mon Dieu, quel... C'est une belle transition.
Mais c'est lui dans l'ordre. C'est Sirenscape. Donc, Sirenscape, en fait, ça ressemble un peu à Tabletop Audio. Ça marche plus sur le mode d'un abonnement. Vous avez des playlists qui ont été générées à ce moment-là avec l'aide de souvent les créateurs de jeux, que ce soit Pathfinder, Starfinder, D&D. Par exemple, moi, j'ai eu accès pendant un bout à l'abonnement pour Donjon Dragon 5e édition. Okay. The Sirenscape avait des ambiances, ils appellent ça des sound sets, des ambiances sur différents chapitres. Tout est divisé en chapitres de modules. Puis vous avez en background, ben, par exemple, vous êtes dans Lost Mines of Phandalin, vous êtes dans le village de Phandalin, ben, vous avez l'ambiance du village, l'ambiance dans la taverne, l'ambiance dans tel magasin, dans tel truc. Vous avez des touchpads avec, comme tu disais, des effets sonores, que ce soit des effets magiques ou des monstres qui sont dans chaque chapitre. C'est vraiment très bien organisé, très bien bâti. Moi, ce que je trouve intéressant de cette plateforme-là, c'est qu'il y a une application iPad. Puis souvent, moi, quand je DM, j'ai mon iPad, puis j'ai juste besoin de cliquer d'un doigt, puis je peux faire rugir le dragon ou je peux faire donner des coups d'épée. Ça donne vraiment une plus grosse immersion dans mon jeu. Puis je pense que la musique, pour beaucoup de DM, c'est quelque chose d'assez important. Leur banque est quand même très bien ficelée. Il y a certains trucs qu'il n'y a pas, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé de Sirenscape, c'est qu'ils ont un forum très, très réactif où, par exemple, moi, je voulais faire Order of the Dragon Queen, mais ils ne l'avaient pas. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour tel chapitre? Puis on me référait tout de suite à des banques audio que j'avais accès pour pallier au fait que ce n'était pas là, mais qui... Puis ils travaillent sans cesse à rajouter d'anciens modules ou les nouveaux modules qui vont sortir. Pour vrai, c'est une belle plateforme. C'est un petit peu plus cher. Je pense que l'abonnement, c'est aux 2 mois, puis c'est autour de 14$. Mais vous avez accès à beaucoup de choses. Puis si vous n'êtes pas D&D, ben, il y a aussi d'autres sons. Il y a aussi de la science-fiction, comme du Call of Cthulhu, je crois, puis des trucs comme ça. Fait que, eux autres, leur vision, c'est plus de travailler en collaboration avec les créateurs. Fait que, ils sont un peu plus serrés peut-être au niveau de ce qu'ils peuvent faire, alors que Tabletop Audio, c'est beaucoup plus libre, c'est très en développement libre, je crois. Ouais. Beaucoup de créations de contributeurs différents. Donc, c'est comme vous voulez. Vous choisirez peut-être l'option qui vous va ou peut-être que la musique ou les effets sonores, c'est pas pour vous, là, mais...
Peut-être que vous allez utiliser les deux en même temps.
C'est ça.
mais je te vois que Sirenscape, je l'ai utilisé très peu. Pas parce que je l'aime pas, seulement parce que j'ai pas eu tant l'occasion nécessairement, puis j'étais très habitué avec Tabletop Audio.
Ouais.
Par contre, je l'ai utilisé dans ma game de route que j'ai faite avec Etu Game. C'était Sirenscape que j'utilisais. Puis le fait de pouvoir, dans le fond, partager la musique avec tout le monde à distance, je trouvais ça très cool. Puis le fait de pouvoir aussi intégrer ta musique dans Sirenscape aussi. J'ai pu prendre une chanson que j'avais sur mon ordinateur, je l'ai mis dans Sirenscape, puis je pouvais dans le fond la rajouter dans ma playlist aussi. Je trouvais ça très cool. Mm-hmm. C'est vrai que je suis encore un peu clumsy avec l'application, sauf que je ne suis pas fermé à l'idée de l'explorer plus amplement.
Oui, il y a beaucoup d'essais-erreurs aussi au début. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mécaniques qu'il faut que tu apprennes. Puis... Mais tu as raison, il y a un service online que je n'ai pas parlé, qui est ce que tu parles. C'est qu'il y a un autre abonnement qui vous permet de diffuser votre musique sur peu importe l'ordinateur, peu importe l'interface que vos joueurs vont utiliser. Vous pouvez diffuser la même musique, les mêmes effets sonores en temps réel avec un soundboard qui est sur votre ordinateur. Pour vrai, ça, c'est vraiment cool. Justement, si vous utilisez Roll20 ou Foundry VTT ou Fantasy Grounds ou juste Google Drive, puis que vous avez un PowerPoint pour faire, vous pouvez quand même avoir accès à des super belles ambiances online puis diffusées en temps réel. Ça, c'est un gros, gros, gros avantage. Ouais.
Oui.
Ton prochain outil, Pierre-Philippe?
Oui, mon prochain outil. Là, j'hésitais. Je pense que je vais y aller avec un très court outil qui, au final, peut servir vraiment en dehors d'un contexte de jeu de rôle, sauf que moi, je l'ai utilisé dans des parties de jeu de rôle. Je l'ai utilisé, en fait, dans les parties, exemple, de soit post-apocalyptique ou des parties modernes, des parties contemporaines. Ça peut vraiment paraître niaiseux, mais pour le reste, ça m'a vraiment été utile. Puis dans le fond, ça s'appelle Best Random. Puis dans le fond, sur Best Random, tu peux choisir dans le fond ton Random Item Generator. Fait que dans le fond, tu choisis dans un nombre que tu veux, tu cliques et le site va tout simplement te sortir des items random que dans le fond, tu peux utiliser dans une partie d'exemple. Moi, je l'utilisais surtout dans mes games de post-apocalyptique où est-ce que, exemple, un joueur allait dans un appartement pour chercher du stock et me demandait qu'est-ce que je trouvais. Je cliquais là-dessus, ça me sortait par exemple une voiture téléguidée, une bouteille vide, une clé rouillée, puis genre des balles de billard. C'est vraiment seulement pour pouvoir avoir clé en main des générations d'items rapides.
Ouais.
Ils sont contemporains. T'sais, on a souvent des listes d'items les 8 objets magiques ou genre des trucs comme ça, mais c'est que tu vas fouiller chez quelqu'un, exemple que ce soit dans une game de Vampire de Masquerade ou dans un jeu post-apo de Fallout, là, tu vas trouver des objets de tous les jours, là, que ce soit un casque de moto ou par exemple. J'ai cliqué sur un item général autour-même, ça m'a donné genre une petite chaise antique. Des choses comme ça. C'est juste pour dire que ça te permet de pouvoir plugger des objets rapido presto.
Puis tu sais que souvent tes joueurs arrivent dans un magasin, puis là, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas déjà?
C'est
ça. Ça donne des pistes.
Oui, ça donne des petites pistes. Moi, c'est un petit rapide, là. J'en ai quelques-uns comme ça qui sont surtout des tout petits rapides que tu sais, c'est pas la mer à boire.
Ouais. Comme on dit. Mais j'en ai un peu dans le même site. Le site s'appelle dungeon.bin.sh.
Okay.
On mettra les liens aussi de tout ce qu'on parle.
Wow.
Il est assez connu, celui-là, parce qu'il vous permet de créer du contenu sous différents systèmes de D&D, mais aussi science-fiction, un peu comme toi. Mais il y a des dungeon generator, il y a des name generator, il y a à peu près tout là-dessus. Ça reste une belle plateforme avec beaucoup, beaucoup de possibilités. Moi, j'aime beaucoup le Dungeon Generator juste pour, OK, il est-tu petit, il est-tu gros? Est-ce que les chambres sont grandes? Est-ce qu'il y a plus de couloirs? Est-ce que c'est plus un labyrinthe? Puis, il va te créer une map très, très rapide, mais c'est super bon pour justement improviser un donjon ou un espace, un lieu vite, vite, vite pour vos joueurs. Là. C'est très cool. C'est seulement 2-3 clics. De vous arriver avec quelque chose de potable.
Oui.
Pour vrai, c'est vraiment cool. Mais tu vois que c'est un site qui est très vers l'essentiel. On n'est pas dans la fioriture, c'est pas très beau comme site. Mais c'est beaucoup de la ligne de code puis des choses pour générer des choses.
T'sais. Il y a encore le même design que quand j'y allais dans le temps que je jouais à 3.5. Là,
pas... Ouais, c'est ça. Mais quand c'est une recette gagnante. Hein?
C'est ça. C'est exactement ça. Un autre que je trouve cool à nommer qui va en dehors du fantasy. Ça s'appelle Anvaka.
OK.
Dans le fond, c'est un petit site internet que je me suis fait partager récemment. Où est-ce que, dans le fond, tu marques, par exemple, le nom d'une ville. On va dire, par exemple, je vais prendre Val-d'Or.
Okay. Val-d'Or.
Val-d'Or. Et ça sort vraiment, exemple, la ville de Val-d'Or. Ça va utiliser, je crois que ça utilise, en fait, on va dire... je pense que ça a utilisé Google Maps à la base, l'utilisation pour ça.
Okay.
Et dans le fond, ça te sort juste la ville, mais ses rues. Tu n'as pas, dans le fond, de nom de commerce, tu n'as pas rien. Tu as vraiment juste un visuel sur les rues. Puis ça aussi, c'est très cool dans un contexte post-apocalyptique, dans un contexte moderne, des fois. Puis à partir du moment où tu as le visuel sur, exemple, la ville en soi, vois-tu, là, puis j'ai marqué Val-d'Or, puis ça m'a donné la ville de Val-d'Or. Au Québec, là. C'est super précis. Là.
OK.
Et à partir du moment que tu as la ville avec ses lignes et dans le fond, on va dire ses délimitations, ben, tu peux comme la customiser en rajoutant soit des couleurs ou en lui donnant comme un style particulier, genre un peu sale ou des choses comme ça pour donner justement un effet post-apocalyptique. Très cool, très, très cool item. Puis impressionnant parce que tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Tu peux aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de ville après ça, puis après ça, tu peux la personnaliser si tu veux. Là. Tu sais, admettons que tu veux utiliser une ville que toi, tu connais, que tu aimes bien le design, tu peux la prendre puis donner un autre nom par après, parce qu'au final, les bâtiments ne sont pas répertoriés, il n'y a pas rien du tout.
Parce que c'est le fun pour, justement, quand on fait du world building, tu as besoin d'une topographie, tu as juste besoin d'une map, mettons, tu veux une grande cité ou un plus petit village, déjà, après, tu peux dire, tu fais un X là, puis tu dis, OK, mais ça va être... l'auberge, puis là, ça va être telle affaire. Ou comme tu dis, pour carrément du post-apo où tu veux vraiment les plonger dans une vraie ville, mais tu ne veux pas vraiment te fier à ce qu'il y a, vu qu'il n'y a plus rien.
Oui, exactement.
C'est ça. C'est vraiment cool.
Oui. À toi, Francis, qu'est-ce que tu proposes?
Moi, mon prochain, ça serait World Anvil. World Anvil, il est quand même assez connu. C'est un outil qui permet carrément... C'est surtout pour les DM qui ont besoin de créer leur propre monde puis qui veulent regrouper toutes leurs notes sur leur monde et même offrir, par exemple, une certaine vitrine aux joueurs sur certaines informations qui veulent qu'ils aient accès. Moi, ce que j'aime beaucoup de World Anvil, c'est que, par exemple, si j'ai une map, je peux mettre la map, par exemple, de mon monde dans World Anvil, puis je peux créer des petits raccourcis sur ma map avec des descriptifs des villes qui la composent. Tout est relié à des articles que je peux aller partager à mes joueurs ou non. Il y a un outil pour créer des joueurs aussi là-dessus. C'est utilisé non seulement pour les DM, mais beaucoup aussi pour les gens qui veulent écrire des livres, que ce soit dans l'univers fantastique, science-fiction, n'importe quoi. Si vous avez besoin d'un outil, c'est parce que Google Drive fait bien la job souvent avec, mettons, les fichiers et des trucs comme ça. Mais si vous voulez un truc qui ressemble beaucoup plus à une encyclopédie de ce que vous êtes en train de créer, qui est très modulaire, que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il y a des sections pour des panthéons, pour des magasins, pour des divinités, pour Big Bad Evil Guy. Il y a vraiment de l'espace pour tout. Seule chose, c'est que c'est un produit qui peut être gratuit, mais pour vraiment avoir le minimum de fonctions vraiment intéressantes, selon moi, il faut débourser un peu. Puis là, il y a différents brackets d'abonnement qui vous donnent différentes possibilités. Ça reste que, pour moi, c'est un produit un peu cher. Par contre, les fonctionnalités sont vraiment là. Ce sont vraiment des leaders pour ce genre d'interface-là. World Anvil, allez vivre, créer un compte, l'essayer gratuitement, voir qu'est-ce que ça vous donne. C'est vraiment cool pour vrai, pour la création de monde.
Oui, ça, je le connais, celui-là. Je l'ai jamais essayé, mais je le connais de nom. Puis ça m'est arrivé souvent de parler, exemple, avec des collègues DM, puis qu'ils vont me shipper le lien vers leur monde créé sur World Anvil avec les commentaires et tout. Là. Je trouve ça très cool.
Puis c'est facile d'ajouter des notes en cours de route.
Oui.
Puis après, on peut tout extraire cette information-là sous différents formats. C'est vraiment cool. Fait que ton prochain?
Oui, en fait, je réfléchissais à laquelle que je mettais. Ça va être, dans le fond, c'est un petit site internet qui s'appelle Cobalt Fight Club. Est-ce que tu connais?
Non.
Dans le fond, c'est un site où tu peux regarder des combats live de Cobalt.
Mais pour vrai, si quelqu'un est capable, là, faites ça, OK.
Faites ça en général et en 3D, ça serait vraiment cool. Ou juste prenez des gens déguisés, un des deux. Mais Cobalt Fight Club, en fait, c'est je l'apprécie beaucoup parce qu'il est aussi, une fois très clé en main, il est même visuellement très intéressant, on va dire pas intéressant, mais il est facile à prendre en main, puis il est beau entre parenthèses, c'est très clair. Là. C'est, dans le fond, pour générer tes niveaux de difficulté d'encounter, en fait.
OK.
Pour, dans le fond, selon tes joueurs, selon le nombre, dans le fond, de leur level, le nombre de joueurs que tu as, vis-à-vis, par exemple, les créatures les plus connues dans Donjons Dragon, par exemple. Et si les créatures vont être divisées avec des CR, avec leur CR, leur size, leur type, leur alignement, dans quelle source qui proviennent, dans quel ouvrage qui se trouve, puis ils vont totaliser, en fait, le nombre de XP que les créatures vont donner.
OK.
Selon, dans le fond, le nombre de joueurs que tu as, combien de joueurs ça font, combien d'XP se fait chaque joueur. Et il va aussi, dans le fond, définir si le combat est comme soit easy, medium, hard ou beaucoup trop difficile. On s'entend, c'est pas du tout un outil qui est, infaillible, dans le sens qu'il y a plein d'autres éléments qui rentrent de compte concernant, on va dire, la capacité des joueurs dans leur personnage, puis aussi, on va dire, le kit que les joueurs vont avoir sur eux autres pour leur personnage, que ce soit des objets magiques ou peu importe, parce que ça peut jouer beaucoup dans la balance. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment un très bel outil, très, très, très facile à prendre en main, que j'utilise quand même relativement souvent avant mes combats pour pouvoir, dans le fond, gérer un peu ma difficulté. Et le site aussi offre, dans le fond, lorsque vous allez, exemple, sur le site, il y a aussi une option pour pouvoir, dans le fond, calculer un combat track initiative, là, dans le sens où est-ce que toutes les créatures que vous avez, exemple, choisies dans le combat pour le niveau de difficulté, plus les joueurs, puis là, dans le fond, ça va se mettre en ligne selon, dans le fond, le jet d'initiative que les joueurs vont pogner.
Okay.
Vous pouvez, dans le fond, placer ça là, puis suivre aisément le déroulement du combat.
Disons. C'est très cool. Est-ce qu'il génère des encounters selon des indices que tu lui donnes? Ou il faut vraiment que tu saches quel monstre que tu veux mettre?
Tu veux que tu saches quel monstre que tu veux mettre. C'est pour ça au moins qu'il aille, il mette la source là, dans quoi ça va se trouver. Okay. Mais tu sais, je trouve ça quand même bien fait. Tu vois, je faisais un test, là, j'ai mis comme 4 joueurs, level 9, puis là, je décidais de les mettre se battre contre 3 abolettes, par exemple. Eh bien, c'est un combat deadly, semblerait. Grande surprise. Mais c'est juste pour montrer que ça se fait quand même vraiment bien pour de vrai. Puis c'est beau, là. C'est pas comme. Je veux pas revenir sur le site de donjon que tu parlais tantôt, là. Mais genre, c'est moderne, on va dire ça comme ça. C'est moderne.
OK. Parce que ça, c'est le genre d'outil que moi, j'aimerais trouver. Une espèce de générateur, je dis à l'outil, je les amène dans l'Underdark. J'ai 4 personnes de niveau temps. Mm-hmm. Ils ont telle chose, ou à la limite, j'ai un fighter, j'ai un truc. Tu sais, est-ce que tu peux me générer quelque chose d'intéressant ou à la limite une piste d'un encounter intéressant? Ça pourrait être cool. Pour vrai, surtout si, mettons, on n'est pas très habile dans le lore puis qu'on veut vraiment trouver des monstres thématiques aux environnements où on amène nos aventuriers. Mm-hmm. Ça pourrait être très cool, je pense, un outil comme ça, mais on ne peut pas le proposer, celle-là, parce que, en tout cas, moi, je ne le connais pas. Si vous le connaissez, écrivez-le. Je vais sauter là-dessus. Ça va être,
Mais c'est cool parce que sur Cobalt Fight Club, tu peux choisir l'environnement dans lequel se trouvent, exemple, les joueurs, au moins. Puis là, tant qu'on soit dire exemple, ils sont présentement dans un environnement arctique. Fait que là, ça va te sortir tous les monstres qui peuvent se retrouver dans cet environnement.
Ah, OK. Ben déjà, il y a une bonne piste, une bonne piste là. Ça, c'est nice. Ouais. Mon prochain outil s'appelle Incarnate. J'en ai parlé un peu avec Giovanni dans un autre épisode du podcast où je parlais de la mécanique, puis j'ai monté un petit preview de ça. J'en reparle parce que c'est un outil que j'ai appris à découvrir un peu plus récemment. Et aussi, il y a des nouvelles fonctions qui sont sorties pour Incarnate. Incarnate, ce que c'est web-based, donc c'est dans votre furteur. C'est un outil qui vous permet de créer des maps. Donc, ça vous permet de facilement faire du drag and drop avec des icônes, des pinceaux. Vous pouvez facilement créer des maps sur des grilles ou non. Ça peut être des maps carrément d'un monde, d'un continent, autant que d'une région précise. Et tout ça dans un look très, très high fantasy, on va dire. T'sais. On a des icônes pour des cités d'orques, puis des cités de nains, puis des cités elfiques. Il y a vraiment de tout. Mais récemment, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont sorti la possibilité de faire des battle maps. Fait qu'à ce moment-là, ce n'est pas des vues en 3D, mais c'est des vues de haut. Puis vous avez des items que vous pouvez mettre pour faire facilement des maps pour vos parties en ligne, justement, par exemple sur Roll20 ou d'autres services en ligne pour gérer vos parties. Puis ils sont vraiment très belles. C'est vraiment très bien réussi. J'ai récemment fait une partie avec des maps que j'ai créées pour une partie Adventures League et j'étais vraiment content du résultat. Les joueurs ont vraiment beaucoup apprécié puis ils pensaient que c'était tiré directement d'un module. Puis j'ai dit non, je l'ai fait. Ça m'a pris peut-être une heure faire 4-5 maps pour ma partie puis j'étais parti puis parti pour ma partie, mais
c'est correct.
C'est ça. Mais c'était vraiment cool. C'est vraiment un bel outil. Allez voir, il y a un service d'abonnement, mais il y a des fonctions gratuites aussi que vous pouvez utiliser. Puis l'abonnement n'est pas si cher que ça. Je pense que c'est un montant pour toute l'année. Puis je pense que c'est une vingtaine de dollars US. Fait qu'à la limite, c'est vraiment. Moi, je préfère un service qui dit upfront, c'est ça, puis tu l'as pour tout le temps ou pour une période donnée. Puis laisse pas un frais caché qui se rajoute à tout ton Netflix puis tes affaires. Là. Fait que mais c'est vraiment intéressant. Fait que Incarnate, pour moi, c'est un super bon outil pour des belles maps. D'ailleurs, je suis en train de faire du world building, comme je disais dans mon dernier épisode, puis j'ai fait la map de mon premier continent, de peut-être ma prochaine campagne. Puis j'ai utilisé un petit logiciel qui s'appelle Posterizer. Peut-être que ça va dire des choses à des DM, justement, qui voulaient imprimer des grosses maps à partir de petites images. Mais puis je me suis fait un poster avec. Puis là, je suis vraiment content parce que c'est un outil vraiment intéressant pour après suivre où mes aventuriers vont se déplacer puis trouver des idées avec la topographie que j'ai créée au préalable. Puis je l'ai tout le temps dans mon bureau. Puis pour moi, ça me parle vraiment beaucoup. Je suis quelqu'un de très visuel. Fait d'avoir des belles maps, très inspirantes, ça m'aide vraiment beaucoup pour créer. Fait que voilà, Incarnate.
Cool, très cool. Ça, je le connais aucunement. Zéro, open bar, j'ai jamais touché à ça.
Va faire un tour, Pierre-Philippe. Je pense
que tu vas écoute, je vais faire ainsi. mon prochain, c'est... c'en est un que je suis depuis un petit bout. Puis le gars derrière ça, il a vraiment sorti beaucoup de choses récemment. Dont un truc qui s'appelle... je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle, dans le fond... Asgard Fantasy Map Générateur.
Non?
Puis dans le fond, c'est un site internet auquel tu vas et il va te pitcher en pleine face un monde, dans le fond, généraux complet.
OK.
Avec genre divisé en nations, comme par exemple, là,
tu vois, j'ai pris
au hasard, puis là, ça m'a donné genre la principauté de Hit ou la République du Sud, le Grand-Duché de Comnia. Et quand tu vas, dans le fond, quand tu vas zoomer, t'as chaque monde est divisé en régions. Chaque région, dans le fond, a ses villes, sa capitale, avec les routes qui, dans le fond, qui vont, les routes commerciales terrestres et maritimes. Et lorsque tu cliques sur une ville, par exemple, tu peux changer son nom si tu veux. Là, j'ai cliqué exemple sur une ville qui s'appelle Stapontef. Tu as, dans le fond, la population de la ville, son nom, mais tu as aussi, exemple, qu'est-ce que la ville feature, exemple, est-ce qu'elle a un fort, est-ce qu'elle a un château, est-ce qu'elle a des marchés, est-ce que c'est un port, etc.
Je pense que j'avais vu très brièvement, mais je ne l'ai pas utilisé pour me rendre compte qu'il y avait ça, parce que sinon,
c'est un peu intimidant, je t'avouerais. on dirait que ça rouvre comme énormément de possibilités. C'est ça, c'est très, très, très rushant. Et le gars aussi, entre autres, à Asgard, a sorti également même chose pour générer en fait des villes, par exemple.
OK.
Puis ça, avec ça, tu peux générer en fait aléatoirement les quartiers de ta ville, le nom de ta ville, sa population. Qu'est-ce qui est le plus dominant dans ta ville? Est-ce qu'elle a, par exemple, un quartier commercial? Est-ce qu'elle est côtière, justement? Est-ce qu'elle est entourée de champs? Est-ce qu'elle est séparée en deux par une rivière? Des choses comme ça. Et c'est un petit visuel cute, pour de vrai. C'est super cool. Et j'aime bien ça. Je ne l'ai jamais utilisé personnellement encore. Par contre, ça m'est déjà arrivé d'aller jeter un coup d'œil pour juste m'inspirer, pour me donner des idées. Et je me dis, tu sais, dans des exemples, un one-shot quelconque, là, où est-ce que j'ai pas le goût de me casser la tête, puis je veux que ça se passe dans un univers X générique, là, j'irais me créer un univers là-dessus, puis je dirais, bon, eh bien, vous commencez à la ville de Presmouth, dans la région de Péton. Je veux dire, dans la République de Péton, au final, tu sais, c'est facile, là, c'est facile et rapide.
Oui, mais parce que moi, ce que j'aime de ce genre d'outils-là, c'est que ça te donne des squelettes. Ça t'enlève pas tant la créativité.
Non.
Parce qu'après, le nom de la ville, tu peux changer après, mais tu sais, oui, tu as tel quartier, mais en même temps, c'est ton histoire que tu vas créer à travers ces éléments-là qui font vraiment la richesse de ce que tu offres à tes joueurs.
Exactement.
Fait que si jamais tu peux te sauver plusieurs minutes, même plusieurs heures à ne pas te creuser la tête pour certains détails, combien il y a d'habitants dans la ville? 55 000.
Ça
vient de ça, tu sais.
Oui.
Mais oui. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Là, je vais faire une espèce d'amalgame de choses dont je vais vous parler. Moi, j'utilise beaucoup, comme DM, j'utilise beaucoup les miniatures en papier. Pour moi, la simplicité d'avoir des miniatures en papier, c'est un avantage qui sauve beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour donner quand même beaucoup d'immersion à mes parties en vrai. Puis, sur le web, il y a tellement de créateurs, de belles miniatures en papier sous toutes ces formes, dans tous les univers, que je voulais vous en mentionner. Je voulais vous en mentionner trois. La principale que j'utilise, qui est probablement celle qui est connue par le plus de personnes, ça s'appelle Printable Heroes. Ça marche sous la forme d'un abonnement au Patreon. Donc, votre argent, il contribue à ce que le créateur peut créer encore plus de miniatures, en offrir plus. C'est sous la base d'un petit abonnement. Je pense que c'est 3$ par mois. Mais vous avez tellement de choix de monstres, de variantes, tout dépendant du tiers de votre abonnement Patreon. Vous pouvez avoir accès à des fichiers PDF. Vous pouvez changer les couleurs de chaque monstre, changer certains attributs, les imprimer dans différents formats. C'est vraiment, vraiment cool. Puis si, par exemple, vous avez une machine qui imprime puis qui coupe aussi en même temps, bien, ce genre de site-là, c'est une merveille parce qu'il donne ces fichiers avec ces fonctions-là pour vous apprendre. Fait que vous sauvez encore plus de temps. Puis moi, ce que j'aime de ça, c'est surtout quand j'étais DM pour faire beaucoup de parties Adventures League. Moi, pour moi, c'est important d'avoir un support physique pour créer une certaine immersion avec mes joueurs. Mais je n'avais pas besoin de m'endetter à acheter 15 mini pour ça. J'ai imprimé une feuille de papier que je coupais, puis j'avais mes mini pour ma partie, tu sais. Puis ça faisait la job, puis je les garde maintenant, je les mets dans un album, puis je peux les ressortir n'importe quand. Quand je vais avoir besoin d'un gnoll, ben je vais en avoir un, tu sais. Puis ça m'a pas coûté, ça m'a coûté un peu d'encre, un peu de papier, puis encourager un créateur. C'est ça que ça m'a coûté. Un autre qui est très, très bon dans celui-là, c'est Paperforge aussi, qui est très connu. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on dirait qu'ils se parlent parce que des fois, l'un crée des affaires que l'autre ne crée pas, mais ils ont quand même un style assez similaire. Fait que vos mini que vous imprimez, ils peuvent servir dans tout. Puis, un autre que je veux mentionner, il s'appelle Paper Golem. Lui, ce qu'il fait, c'est à peu près la même chose, sauf que son style visuel est beaucoup plus enfantin, disons-le, un peu plus cartoon. Fait que moi qui roule des parties comme Lost Mines of Endeavor avec mon garçon de 5 ans, ben j'ai des miniatures de Paper Golem que je peux utiliser qui sont très comiques, mais que ça reste accessible, c'est pas trop intense, tu sais. Si vous êtes plus aussi dans ce style-là, plus caricature, plus, tu sais, ça peut être vraiment cool de voir ce qu'il fait. Puis un dernier qui fait quelque chose de différent, ça s'appelle Dave Graham Models. Puis lui, en fait, ce qu'il offre, c'est carrément des bâtiments, puis des véhicules, puis des éléments de terrain que vous pouvez imprimer en papier, construire, puis ça vous fait, mettons, des maisons pour mettre sur vos maps. Puis, tu sais, c'est vraiment... C'est un autre skill, là, mais ouais, c'est sûr, ouais. Moi, je l'ai vu, puis j'ai fait « wow », mais on dirait que j'ai pas osé m'aventurer dans ça, parce que sinon, mes tablettes seraient remplies de maisons en carton, là, puis... mais ça reste vraiment cool. Puis ce que j'aime, c'est que tout est accessible en web, puis ça s'imprime facilement, puis ça peut donner une coche de plus, puis pour les gens qui sont justement plus, pas tant jeux en ligne, mais plus jeux physiques, c'est une bonne béquille quand, mettons, vous voulez avoir la mini que vous n'avez pas. Mm-hmm. C'est sûr qu'il n'y a pas tout, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de stock que vous pouvez jazzer aussi. Puis c'est ça. Fait que Printable Heroes, Paperforge, Paper Golem, puis Dave Graham Models. Allez voir ça, on va mettre les liens. C'est vraiment cool, ça vaut la peine.
Très cool, ça. Vois-tu, c'est pas du tout quelque chose que je connais non plus. On dirait que c'est je sais pas, ça m'est jamais passé par la tête, peut-être parce que je suis pas assez... J'aurais comme peur de prendre le papier dans mes mains puis juste l'écraser parce que je suis absolument pas manuel, là. Mais non, c'est très cool. C'est le genre de choses que j'aurais... On dirait qu'avoir une imprimante, j'en profiterais en bon d'amant peut-être, puis je demanderais plutôt à ma blonde de me lui monter à ce moment-là.
Ben, je pense que je vais faire une vidéo pour vous montrer un peu mon processus, cool. puis le matériel que j'utilise pour les faire, parce que j'essaie de les faire pour que ça dure.
Mais oui, fais ça.
Fait que ouais, je vais peut-être, c'est une bonne idée de vidéo.
On a des idées comme ça.
Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Puis oui. On va créer quelque chose comme ça.
Mais oui. Et moi, mon prochain, encore un autre outil en ligne plutôt commun, ça s'appelle RPG Tinker. Est-ce que tu connais?
Non.
C'est un petit site. C'est pas très gros, mais encore une fois, je le trouve surtout très clé en main, très facile à prendre. Puis dans le fond, ça permet de... C'est un NPC generator,
okay,
avec un template que tu peux choisir, par exemple, un template d'un personnage, on va dire, plus combattant ou plus lié avec la dextérité, un casteur. Quelqu'un d'un peu plus non combattant. Tu pourrais décider que ton NPC, ce soit un fermier. Puis là, tu peux choisir sa race. Ça, c'est vraiment juste des options que tu choisis. Sa race, est-ce que tu veux qu'il y ait des fortes attributs ou non? Son nombre de dice, est-ce que tu veux une feuille complète ou juste comme une feuille résumée? Puis là, après ça, quand tu dis que tu demandes de le générer, ça fait en sorte que ton NPC pop. Il est vraiment monté comme on va dire, quand on regarde, exemple, un stats block de monstre, avec genre les espèces de barres qui séparent les différentes caractéristiques et tout ça. C'est monté comme ça. Comme là, au-dessus, j'en ai fait un, ça m'a pris 2 minutes. J'ai un personnage qui s'appelle Silton. C'est un ministrel Azimar. dans le fond, qui a un facteur de puissance challenge 12 quand même. Puis là, dans le fond, j'ai toutes ces spells qui sont placés là.
Wow.
J'ai toutes ces spécial abilities aussi. C'est Rachel Feature qui vient avec le fait que c'est un Azimar. Puis, je ressemble à ça avec sa classe d'armure.
Cool,
c'est ça. Ouais, c'est vraiment cool. Puis, encore une fois, super rapide à prendre en main. Moi, je l'ai utilisé à plusieurs reprises. J'avais runné la tombe des horreurs.
Ouais.
Le truc que tu runs juste avec du monde qui savent qu'ils vont mourir. Et dans le fond, mes joueurs, c'était sorti, ça avait fait en tout, ils s'étaient fait trois personnages chacun. Puis dans le fond, okay, à chaque fois qu'un personnage mourait, bien, l'autre prenait la place. Dans le fond, il trouvait un des personnages qui était perdu. Et j'ai un de mes joueurs, dans le fond, qui s'était rendu au bout de ces trois personnages. Puis j'avais printé, en fait, des NPC rapido presto avec RPG Tinker. J'ai fait, OK, ben, j'ai ça là, puis paf, t'as ton nouveau personnage. Parce que là, quand il savait que quand il passait leurs trois personnages, il se ramassait avec les NPC de merde. Fait que j'ai un de mes joueurs qui finissait par jouer. Il jouait un mendiant mort-vivant, mais comme il avait comme une intelligence. Là. Fait que c'était juste comme un mendiant qui était mort dans la tombe des horreurs puis qui se promenait. Puis il avait toute sa feuille de personnage bien, bien printée devant lui, bien faite. Et pour vrai, non, super, super bel outil. Et ils ont aussi commencé à sortir. Il est en alpha, par exemple, présentement, il n'est pas fini.
Okay.
C'est RPG Tinker Bestiary, où dans le fond, où est-ce que tu as des créatures qui vont proposer. Puis encore une fois, tu peux, dans le fond, demander est-ce que ma créature, est-ce qu'elle peut avoir telle affaire. Exemple, je voudrais un gobelin fighter, mais tu peux comme commencer à y changer des affaires dedans pour le rendre un peu plus fort, un peu moins fort. Puis ça va te sortir, dans le fond, une belle feuille toute bien faite.
C'est très cool pour des adversaires intéressants.
Oui, exactement. Moi, je l'utilise beaucoup pour des henchmen un peu plus haut que le bandit moyen. Là, mettons que c'est comme le sous-commandant qui est un peu plus badass. Là, pas le boss de fin, mais presque. Souvent, je vais utiliser ça. C'est vraiment un très bel outil.
À la place du capitaine Hobgoblin, mais tu peux avoir un Hobgoblin, mettons, qui a vraiment une stat de plus, puis qui est un petit peu plus bâti, puis qui a un peu plus de backstory. En tout cas, qui t'inspire à la limite un peu plus.
Oui, exactement. Puis tu peux le bien le doser pour qu'il soit dans le même type de challenge. Tu sais. Fait que c'est cool. Okay.
Cool. C'est ça. Ouais. Et moi, le dernier que je veux parler, c'est une demande. En fait, c'est un commentaire qu'on a beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de contenu francophone sur D&D disponible sur le web. On n'a pas le choix de dire que oui, les éditions traduites se font de plus en plus rares parce qu'ils sont très populaires. Ils sont très chers aussi. Il y a une première piste de solution, je vous donne un hint comme ça. Là. Si vous avez utilisé D&D Beyond et que vous l'utilisez dans Chrome, il y a une fonction pour traduire carrément une page dans une autre langue, puis ça se fait quand même assez bien, puis la traduction a quand même du bon sens. Fait que si jamais vous voulez switcher rapidement, ça c'est cool. Mais il existe un site qui s'appelle AideDD, qui est très connu par la communauté francophone de jeux de rôle, qui joue à la 5e édition. C'est un site où il y a beaucoup des règles, beaucoup des explications du jeu qui sont disponibles en français, et c'est actualisé normalement avec les dernières nouveautés qui sortent. C'est un outil créé par une communauté de joueurs. C'est quand même très bon, mais la structure n'est peut-être pas aussi bien finalée qu'un D&D Beyond, mais ça reste que c'est un outil francophone. Puis je sais que c'est un concern de la communauté en général. Puis c'est un peu pour ça que j'ai parti coup critique au début, c'est que je ne trouvais pas vraiment une ressource en français qui parlait vraiment du jeu de rôle autant que je l'aurais voulu. Puis que les ressources se faisaient rares, puis que les nouvelles qui rentraient étaient plus rares parce que tout était en anglais. Fait que c'est un peu ça notre mission à travers tout ça, là, c'est de vous parler en français de tout ça. Mais des outils comme AideDD, ça a été dans les suggestions souvent dans les commentaires. Puis je tenais à le spécifier. Allez consulter ça. Ça peut peut-être déjà vous donner des idées, puis vous permettre de créer certaines choses ou de vous informer sur le système de jeu Donjons Dragon 5e édition en version française plus facilement. Ça va m'en donner aussi mon petit mot là-dessus. C'est sûr qu'on en veut plus de contenu francophone. Puis récemment, on a vu que Guild Force 9 reprenait le mandat pour traduire plusieurs éléments de D&D 5e édition en français. Oui. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être les prochains volumes? Est-ce que ça va juste être les cartes de spells ou ça va être des les DM screen, on ne sait pas encore parce que les autres sont plus dans le matériel plus accessoire. Mm-hmm. Mais est-ce que ça va être les modules? On l'espère. On espère qu'il va y avoir de plus en plus de traductions francophones. Puis surtout qu'ils vont être faciles, moins onéreuses, plus faciles à se procurer maintenant que c'est Gale Force 5 qui a l'air de s'occuper de ça.
Oui.
Ouais.
Très bel outil. Très beau éditorial. J'apprécie beaucoup. Mais c'est vrai, pour vrai. Puis AIDD, personnellement, moi, je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais un peu plus jeune, puis que j'ai débuté dans l'univers du jeu de rôle, dans le sens que, tu sais, aujourd'hui, il y a peut-être encore des mots en anglais dans des livres de D&D que je sais pas ce que ça veut dire en français, mais parce que je l'ai tellement vu souvent que je sais où est-ce qu'il se plug, je sais à quoi il sert en tant que
ouais. tel.
Mais LDND, je trouve que c'est très cool, justement, pour quelqu'un qui a le besoin d'aller chercher des infos en français. Ouais.
Cool.
Très cool. Hey, moi, dans le fond, il va m'en rester, on va dire, entre parenthèses, deux. J'en ai un, puis j'ai comme, dans le fond, on va dire, mes quelques pages YouTube que je trouve vraiment... que je peux comme ne pas passer sous silence concernant soit de la musique ou des sons d'ambiance. Ça, je vais les passer quand même assez vite. Mais avant ça, un dernier que je veux mentionner, qui est... je serais sûr que je retrouve le nom. Je l'ai ici. Ça s'appelle... ça, j'ai découvert vraiment, vraiment récemment. J'ai découvert ça comme la semaine passée. Okay. Ça s'appelle Newt Blueprint Builder. Puis dans le fond, c'est purement pour du sci-fi. C'est un gars, probablement un fan fini du jeu de rôle d'Alien, justement, qui a sorti un outil en ligne pour, dans le fond, créer ses propres blueprints de stations ou de vaisseaux, des choses comme ça.
Wow.
Fait que ça a vraiment un visuel très vert écran d'ordinateur avec genre des cases. Puis là, tu peux, dans le fond, construire vraiment de A à Z la forme que tu veux, puis faire ton propre vaisseau ou peu importe. Et tu as aussi, dans le fond, des petites icônes que tu peux comme plugger dans l'écran. Par exemple, tu sais que dans cette icône-là, ça veut dire que c'est les mêmes icônes que dans le jeu de rôle d'Alien, là, mais ça peut être utilisé dans n'importe quel autre jeu de rôle, sci-fi, on va dire. Et tu as des icônes comme, par exemple, un elevator qui va, dans le fond, mener en haut, en bas, là, ou on va dire un endroit où est-ce que le monde met leur space suit. Ou OK, cette zone-là ben, est radioactive, des choses comme ça.
Okay.
Ou un workshop. Tu sais, bref, il y a des icônes que tu peux plugger. Mais ça, pour ça, j'ai découvert ça comme la semaine passée. Et très bel outil. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se faire avec le temps là-dessus. Déjà, j'ai vu des gens qui ont posté, un gars qui avait posté, il avait fait un gros vaisseau de transport, 5 étages. Dans le fond, pour justement Alien, j'étais comme tabarnache, c'est vraiment fou raide, là, le gars, c'est vraiment beaucoup donné. Et très bel outil. Et concernant, dans le fond, mes pages YouTube, je vais les plugger rapidement, celles que je trouve vraiment incontournables, que j'utilise au quotidien dans mes parties. Il y a, que tu connais déjà, mon cher Francis, c'est Sword Coast. Voyons, je l'ai comme perdu.
Soundscape.
Merci. Sword Coast Soundscape, où est-ce que dans le fond, c'est des sons qui sont pour Donjons Dragons, mais pour le fantasy en général, sauf que ce qui est vraiment cool avec ça, avec cette page YouTube-là, c'est qu'il y a des sons qui sont spécifiques à des campagnes sorties. Dans le sens que moi, j'ai l'exemple, je fais Curse of Strahd et il y a dans le fond des zones en Curse of Strahd qui ont, dans le fond, leur petit soundboard à eux autres où tu vas aller faire « OK, mais je veux l'ambiance de une heure dans tel manoir hanté. » Mais ils l'ont. Puis ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment, vraiment cool parce que tu as vraiment l'impression de... Tu le sais, là, c'est qu'est-ce que ça va... Tu sais à quoi t'attendre, en quelque sorte.
Ouais.
Et ils ont vraiment, vraiment beaucoup de stock, là. Énormément de stock. Il y en a vraiment beaucoup, là. Ça n'arrête plus. Puis souvent, ils vont mettre un petit icône à côté de telle compilation de musique pour dire OK, ben ça c'est pour Tomb of Annihilation ou ça c'est justement pour Curse of Strahd, ça c'est pour Waterdeep. Fait que là tu sais un peu dans quoi t'attendre, mais il y en a aussi qui sont neutres, comme par exemple une taverne qui a beaucoup de monde. Fait que là, tu vas avoir des sons de background de gens qui vont parler. Puis ça, je trouve que c'est un qui est inoubliable, on peut pas passer à côté. Sinon, aussi j'ai un autre qui s'appelle Cryo Chamber, que j'apprécie énormément beaucoup. Que ça, par contre, c'est beaucoup plus de l'ambiance lourde, beaucoup plus pour soit des jeux d'horreur ou même à la limite des jeux fantasy, là, c'est très, très des sons lourds, des sons intenses. C'est deep. Pis ça, c'est deep, ça aussi, ça dure, c'est des longues compiles d'à peu près une heure, où est-ce que tu vas avoir le... Tu sais, tout le temps les mêmes sons qui vont tourner, puis... Mais ils ont des trucs aussi, hein, sans nécessairement dire que c'est plus rythmé, mais il y a des trucs qui vont varier selon le genre que tu désires. Ils ont vraiment beaucoup de style. C'est un très cool aussi, très, 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 très cool. Ensuite, rapidement, j'ai White Bat Audio, qui est dans le fond un gars qui vend, dans le fond, c'est du dark synthwave, c'est de l'horreur. Puis même du rock metal, admettons que vous vouliez plugger ça dans vos parties. Puis ça, dans le fond, ce qui est cool, c'est que c'est copyright free. Fait que, admettons que vous voulez filmer vos parties puis vous ne voulez pas avoir de problème par rapport avec ça, bien ça, vous pouvez le plugger. Ah, c'est le gars, il l'a dit d'avance, là, ça sert à ça en partie. Et pour finir, j'ai pas le temps de toutes les faire, c'est pas grave, je vais en dire un dernier. Ça s'appelle Ambience World. Et ça, dans le fond, c'est vous pouvez l'utiliser pour une partie de donjon ou pour une partie de post-apo ou moderne ou science-fiction. Mais vous pouvez aussi l'utiliser simplement pour vous coucher la nuit et dormir parce que, dans le fond, c'est plein de sons. Juste plein de sons. Genre une tempête de neige pendant que tu es à l'intérieur de la maison ou un feu qui crépite.
C'est des ambiances.
Sauf qu'ils ont vraiment de tout. Genre... t'es dans un train la nuit puis genre ça se promène ou par exemple t'es dans un lounge un peu riche dans un vaisseau spatial, c'est vraiment précis mais ça je me perds là-dedans là. Je fais comme ok vous me proposez 8 sortes d'oiseaux qui vont siffler pendant une heure là. Je vais y checker un après l'autre là.
Mais c'est des bonnes suggestions parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui se laissent plus à leur créativité puis leur façon de créer justement ce genre de quête-là ou d'aventure-là, ça passe beaucoup par de la musique, tu sais, puis en écoutant de la musique. Fait que c'est le genre de chaîne parfaite pour ça, pour avoir le feeling de ce qu'on veut offrir aux joueurs. Là.
Ouais. OK, puis regarde, un dernier, j'en mets un dernier, ça j'arrête. C'est le gars, j'y ai parlé en plus, je pense que c'est un français, parce qu'il écrivait en français sur Facebook, là, je le connais pas plus. Le gars, il s'appelle, en plus sa chaîne a changé de nom, fait, j'ai comme eu de la difficulté à le retrouver, Michael Giffly. Puis dans le fond, lui, vous avez peut-être déjà vu passer, dans le fond, c'est son symbole, là, souvent je le vois des fois dans des compilations sur des groupes Facebook de Donjons Dragons, mais du monde le partage en faisant « Hey, j'ai découvert cette page YouTube-là, c'est cool ». Il fait un peu à la même manière que Sandscape, merci. On dirait que le mot Sandscape ne me rentre pas dans la tête, là, j'allais dire Sword Coast Adventure.
Je suis là pour ça.
Merci. Un peu à la manière de Sword Coast Soundscape. Lui, dans le fond, il va sortir des ambiances de une heure pour des trucs spécifiques, souvent très donjon-esque. Par exemple, une Fantasy City ou une forêt avec des loups. Mais aussi des trucs vraiment cool, genre, exemple, un steampunk castle pendant une heure de temps. Ou encore un African Market. Un jardin asiatique. Tu sais, des petits sons. Ding, ding, ding. Tu sais, juste pour dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de stock. Puis c'est très cool aussi. Pour le reste, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait.
Cool.
C'est ça. C'était mon package de liens YouTube que j'utilise au quotidien dans mes games.
Ben, toutes tes suggestions, c'est le genre de choses que tu n'as jamais assez. Non. Comme DM, à avoir des références où aller pour vraiment trouver l'affaire que tu as besoin. Là. Fait que, c'est ça qu'on vous dit, donnez-nous vraiment vos suggestions sur tous vos outils et toutes les choses que vous utilisez parce que ça peut juste être bénéfique pour tout le monde. Toutes les gens qui organisent des parties, que ce soit en ligne ou en vrai, là, c'est toujours des super bonnes suggestions. Puis là, juste avant qu'on commence, Pierre-Philippe, à enregistrer, tu m'as parlé d'un site que je trouve merveilleux.
Ah, oh, mon Dieu, c'est vrai. Tu lâches plus que ça, en
final.
Un dernier site Internet que je conseille à tout le monde. Mettons que vous voulez vous faire votre personnage de Donjons & Dragons, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez jouer. Puis vous êtes à court d'idées, vous savez plus où mettre la tête. Il y a un site Internet qui s'appelle « Who the f*** is my D&D character? » Vous allez là-dessus. Il vous propose de la manière la plus vulgaire possible un personnage de Donjons & Dragons. qui a souvent des traits, un exemple par exemple. Mettons,
une opinion bien précise sur quelque chose.
Je vais choisir au hasard, je vais vous le traduire en français. J'en ai cliqué un. Et j'ai, dans le fond, j'ai un tiflin barde qui vient d'un temple extrémiste et qui, dans le fond, a perdu son ombre lors d'une en payant une dette. Mon Dieu, c'est vraiment cool comme background. Ouais. C'est comme le premier que je pogne qui est comme pas un sens soit peu.
Parce que moi, tantôt, je parlais des gens qui méprisaient tout le monde qui avait une half-plate. Il y a des choses funny comme ça, comme il y a des super belles coïncidences comme tu viens d'avoir.
Comme ce que je viens d'avoir, oui. Mais, Who the fuck is my D&D character? Très cool pour pouvoir popper un personnage dont on demande, vous n'avez pas d'idée. C'est beau à voir qu'il y a tellement beaucoup de gens qui font des petits sites internet, des petites applications rapido presto en lien avec le monde du jeu de rôle. Il y a vraiment des belles affaires qui se fait, je trouve.
Ça se peut que le mot dans le nom du site soit censuré pour être sûr que la vidéo passe, mais
ouais.
Vous trouverez probablement de quoi on parle avec les liens qu'on va mettre dans la section des commentaires. Hey, merci beaucoup, Pierre-Philippe. J'ai trouvé ça vraiment cool par cet épisode-là. Oui. Il y a plein de choses. Moi, tantôt, je vois ta liste, puis là, je vais aller cliquer sur tout, puis je vais aller mettre ça dans mes favoris pour créer en masse. Merci beaucoup à vous autres d'être avec nous encore pour une semaine. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos interactions. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur votre agrégateur de podcasts préféré. D'ailleurs, je le dis pas souvent, mais si vous avez l'occasion d'aller mettre une note sur le podcast en format audio, que ce soit sur Apple Music, Google Play, Spotify, si c'est une note positive, bien, ça nous aide à sortir du lot puis à aller chercher juste plus de monde qui peuvent se joindre à notre communauté. Fait que c'est juste cool comme ça. Sinon, bien, c'est ça, vous pouvez nous trouver un peu partout sur le web à @coupcritique.ca. Allez voir notre site web aussi. On a de plus en plus d'articles qui sortent sur des nouvelles, des choses qu'on réussit à trouver dans le milieu des interwebs. Mm-hmm. Merci beaucoup encore, Pierre-Philippe.
Mais merci à toi,
François. On se revoit pour une prochaine fois bientôt. Oui. Sur ce, amusez-vous, jouez bien, jouez safe.
Jouez prudemment.
Oui, jouez prudemment. À la semaine prochaine.
Bye.